Chapitre 48. South Brooklyn, quartier de Red Hook, 6 heures du matin. Lorenzo Santos se gara le long du trottoir devant la façade en briques rouges de l'immeuble de Nicky. Il éteignit le moteur et attrapa une cigarette dans la poche de sa veste. Il la coinça entre ses lèvres, l'alluma, puis ferma les yeux en tirant une première bouffée. Le goût âcre du tabac brûlé inonda sa gorge, lui apportant un apaisement qui ne dura pas. Nerveux, il inhala une nouvelle bouffée de nicotine, le regard fixé sur le briquet tempête en or blanc que lui avait offert Nicky. Il soupesa l'élégant boîtier rectangulaire orné de ses initiales et paré d'un bel habillage en cuir d'alligator. Puis, les yeux dans le vague, il battit le briquet plusieurs fois, s'enivrant du son métallique libéré à chaque ouverture du chapeau guilloché. Que lui arrivait-il? Il avait encore passé une nuit blanche à son bureau, prostré, dévoré par l'image de la femme qu'il aimait et qu'il imaginait dans les bras d'un autre. Il n'avait plus eu de nouvelles d'elle depuis 24 heures, et cela le dévastait. Sa passion le consumait, emportant tout sur son passage. Une maladie d'amour qui le rendait fou et le détruisait à petit feu. Il avait conscience que cette femme était toxique, que son influence sur sa carrière et sur son existence risquait de lui être fatale. Mais il était pris au piège, terrassé, incapable de faire machine arrière. Il tira sur sa cigarette jusqu'au filtre, jeta le mégot par la fenêtre, puis sortit de la Ford Crown et s'engouffra dans l'ancienne usine reconvertie en loft. Il monta les marches jusqu'à l'avant-dernier étage et ouvrit la porte coupe-feu avec le trousseau qu'il avait récupéré lors de sa dernière visite. Cette nuit, il avait eu une révélation. S'il voulait garder une chance de récupérer Nicky, il fallait qu'il retrouve son fils. Il devait réussir là où Sébastien Larrabee était visiblement en train d'échouer. S'il parvenait à sauver Jérémy, Nicky lui en serait éternellement reconnaissante. Le jour n'était pas encore levé. Il entra dans le salon et appuya sur l'interrupteur. L'appartement était glacial. Pour se réchauffer, il se prépara un café, alluma une nouvelle cigarette et monta à l'étage. Pendant un quart d'heure, il fouilla de fond en comble la chambre du gamin à la recherche d'un indice, mais ne trouva rien de vraiment utile sauf le téléphone portable que le gosse avait laissé sur son bureau. Il ne l'avait pas remarqué la première fois, mais à présent, la chose lui semblait singulière. Il connaissait suffisamment l'attachement maladif des ados à leur smartphone pour s'étonner de cet oubli. Il prit en main l'appareil et profita de l'absence de mot de passe pour naviguer de longues minutes entre les différentes applications de jeu avant d'y trouver quelque chose de plus intéressant, un programme faisant fonction de dictaphone. Curieux, il consulta les archives de l'application pour y découvrir une série de fichiers numérotés qui, dans leur intitulé, portaient un nom récurrent. Docteur Marion Crane 1. Docteur Marion Crane 2. Docteur Marion Crane 3. Docteur Marion Crane 10. Santos fronça les sourcils. Ce nom ne lui était pas inconnu. Il lança le premier enregistrement et comprit de quoi il s'agissait. Lorsque Jérémy avait comparu au tribunal, le juge avait assorti sa condamnation d'une obligation de suivi psychologique. Marion Crane était la psy qui l'avait prise en charge. Et le gamin avait enregistré ses séances. Mais dans quel but? Était-ce un enregistrement pirate ou cela faisait-il partie d'un processus thérapeutique? Peu importe, après tout, pensa le flic en haussant les épaules. Dans la position du voyeur, il écouta sans vergogne les bandes dans lesquelles l'adolescent dévoilait son intimité familiale. Tu veux bien me parler de tes parents, Jérémy?
Ma mère est géniale. Elle est toujours de bonne humeur, optimiste et rassurante. Même lorsqu'elle a des soucis, elle ne me les montre pas. Elle fait des blagues, elle est drôle. Elle traite tout par l'humour. Déjà quand on était enfant avec ma sœur, elle nous déguisait en personnages de conte et elle montait des spectacles pour nous amuser.
Elle est compréhensive donc. Tu peux lui parler de tes problèmes?
Ouais, elle est très cool. C'est une artiste. Quelqu'un qui respecte ta liberté. Elle me laisse sortir. Elle me fait confiance. Elle connaît mes meilleurs potes, je lui fais écouter mes compos de guitare, elle s'intéresse à ma passion pour le cinéma.
En ce moment, elle a un homme dans sa vie.
Ouais, un flic. Un mec plus jeune qu'elle. Santos, il s'appelle. Une espèce de babouin.
Tu ne l'aimes pas beaucoup, on dirait.
Vous êtes perspicace.
Pourquoi ?
Parce qu'à côté de mon père, c'est un minable. Et de toute façon, cette relation ne durera pas.
Comment peux-tu en être certain ?
Parce qu'elle change de mec tous les 6 mois. Faut que vous compreniez quelque chose, Doc. Ma mère est belle. Vraiment très belle. Elle a une sorte de magnétisme qui affole les mecs. Où qu'elle aille, ça ne manque jamais. Les hommes lui tournent autour avec, dans le regard, une lueur de chasseur. Je sais pas pourquoi, les mecs deviennent dingues. Un peu comme le loup de Tex Avery. La langue pendante, les yeux qui sortent des orbites, vous voyez le truc, quoi.
Et ça te gêne ?
C'est elle que ça gêne. Enfin, c'est ce qu'elle prétend. Moi, je pense que c'est plus ambigu. Pas la peine d'être psy pour comprendre qu'elle en a besoin pour se rassurer. Je pense que c'est aussi pour ça que mon père l'a quittée.
Parlons de ton père, justement.
Pas compliqué. C'est le contraire de ma mère. Sérieux, rigide, rationnel. Il aime l'ordre, la prévision.
On ne se marre pas beaucoup avec lui, ça c'est sûr. Tu t'entends bien avec lui ?
Pouf, pas vraiment. D'abord parce qu'on se voit peu à cause du divorce, et puis je pense qu'il espérait que je travaille mieux à l'école. Que je sois comme Camille. Lui, il est très cultivé. Il connaît tout sur tout. La politique, l'histoire, l'économie. D'ailleurs, ma sœur le surnomme Wikipédia.
Ça te fait de la peine de le décevoir ?
Pas trop. Enfin, un peu.
Toi, tu t'intéresses à son travail ?
Il est considéré comme l'un des plus grands luthiers du monde. Il fabrique des violons qui sonnent comme des Stradivarius, et ça, quand même, c'est la classe. Il gagne beaucoup de thunes, mais je pense qu'en fait, il en a rien à foutre, ni des violons, ni de l'argent.
Je ne comprends pas.
Je pense que mon père n'en a rien à foutre de rien. Je pense que son histoire d'amour avec ma mère est la seule chose qui l'ait vraiment fait kiffer dans la vie. Elle lui apportait la fantaisie qui manquait à son existence. Depuis qu'ils se sont quittés, c'est comme s'il vivait à nouveau dans un monde en noir et blanc.
Pourtant, il partage sa vie avec une autre femme, n'est-ce pas ?
Ouais, Natalia, une danseuse de ballet, un vrai sac d'os.
Il la voit par-ci, par-là, mais ils habitent pas ensemble. Et je ne pense pas que ce soit dans ses projets. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti proche de ton père ?
Je sais plus.
Fais un effort, s'il te plaît.
L'été de mes 7 ans, peut-être. On était allé visiter certains parcs nationaux en famille. Yosemite, Yellowstone, le Grand Canyon, le Grand Trip, quoi. On a voyagé à travers tous les États-Unis. C'était les dernières vacances avant le divorce.
Tu te souviens d'un épisode particulier ?
Ouais. Un matin, on était allé pêcher, bon, rien que tous les deux. Et il m'a raconté sa rencontre avec ma mère. Pourquoi il était tombé amoureux d'elle, comment il l'avait rejointe à Paris et comment il avait su se faire aimer d'elle. Je me souviens qu'il m'avait dit cette phrase « Lorsque tu aimes vraiment quelqu'un, aucune forteresse n'est imprenable. » Ça sonne bien, mais je suis pas certain que ce soit vrai.
On peut parler du divorce de tes parents. Pour toi, ça a été difficile à vivre, n'est-ce pas ? J'ai vu sur ton dossier scolaire que tu avais eu des difficultés à apprendre à lire et que tu souffrais de dyslexie.
Ouais, le divorce, ça m'a fait morfler. Je n'arrivais pas à croire que leur séparation durerait. Je pensais qu'avec le temps, chacun ferait un pas vers l'autre et qu'ils se remettraient ensemble. Mais ça marche pas comme ça. Plus le temps passe, plus les gens s'éloignent et plus ça devient difficile de renouer des liens.
Si tes parents ont divorcé, c'est parce qu'ils n'étaient plus heureux ensemble.
Ça, c'est des conneries. Vous croyez qu'ils sont plus heureux maintenant ? Ma mère bouffe des pilules et mon père est triste comme une porte de prison. La seule personne qui savait le faire rire, c'était ma mère. Il y a plein de photos d'avant leur divorce où on les voit rire tous les deux. Chaque fois que je regarde ces clichés, j'ai les larmes aux yeux. Avant, on était une vraie famille. Unie, soudée. Rien ne pouvait nous atteindre.
Tu sais que c'est un phénomène classique ?
Quoi ?
Que les enfants de divorcés idéalisent le couple formé par leurs parents.
Tu n'es pas Cupidon, Jérémy. Tu ne dois pas entretenir l'espoir de les voir à nouveau ensemble. Tu dois tirer un trait sur le passé et accepter la réalité telle qu'elle est.
Tu comprends ce que je te dis ? Tu ne dois pas intervenir dans la vie de couple de tes parents.
Tu ne peux pas les réunir de nouveau. Mais si ce n'est pas moi qui le fais, qui le fera ?
La question de l'adolescent resta en suspens. À cet instant, la sonnerie du téléphone de Santos retentit, sortant brutalement le flic de l'intimité de la séance de psychanalyse. Il regarda son écran, l'indicatif était celui d'un poste de la NYPD. « Santos ?» dit-il en décrochant l'appareil.
« Karen White, j'espère que je ne vous réveille pas, lieutenant. »
L'anthropologue du 3e Precinct. « Enfin !»«
J'ai de bonnes nouvelles pour vous, » reprit-elle.
Le flic sentit une poussée d'adrénaline. Déjà, il avait quitté la chambre et descendait les marches pour rejoindre le rez-de-chaussée.
« Vraiment ?»«
Je crois que j'ai identifié l'origine du tatouage de votre cadavre. »
« Vous êtes au commissariat ?»«
Je vous rejoins, » affirma-t-il en refermant la porte du loft derrière lui.